Bonjour, aujourd'hui les crimes de guerre du Japon de 1937 à 1945. Je voudrais m'excuser de tout mon cœur pour les atrocités qui ont été commises. Général Tojo, Premier ministre du Japon de 1941 à 1944. Ans d'histoire. Le 3 mai 1946, dans une salle de l'ancien état-major de l'armée impériale, s'ouvrait à Tokyo l'équivalent asiatique du procès de Nuremberg. Il n'y a pas eu de procès criminel plus important que celui-ci dans toute l'histoire, disait ce jour-là le président australien du tribunal, William Webb, avant d'énumérer la longue liste des crimes dont étaient accusés les 28 Japonais qui se trouvaient devant lui. Le massacre de plusieurs centaines de milliers de civils, des populations entières réduites en esclavage, l'utilisation de cobayes humains pour d'abominables expériences médicales, ou la mort de dizaines de milliers de prisonniers de guerre chinois, américains, anglais, néerlandais, australiens ou français, dans une guerre qui avait commencé en Asie 2 ans avant son déclenchement en Europe, quand l'armée japonaise avait envahi la Chine en novembre 1937.
À Shanghai, un débarquement de troupes japonaises sous le tir des batteries chinoises dominant le Yangtze. Les soldats du Mikado doivent livrer des combats acharnés aux fantassins chinois retranchés sur les rives du fleuve. Le général Chiang Kai-shek passe en revue des divisions de l'armée régulière. La ville, qui compte plus de 3 millions d'habitants, est soumise au bombardement de l'aviation et de la flotte japonaise. Les quartiers chinois constituent l'objectif principal des forces nippones. Leur population cherche refuge dans la concession internationale.
Et cette population allait subir pendant 8 ans la violence et les crimes de l'armée japonaise, des crimes de guerre. Que rappelle le livre de mon invité d'aujourd'hui, publié chez Armand Collin, L'armée de l'empereur, violence et crimes du Japon en guerre. Jean-Louis Morgolin, bonjour.
Bonjour.
Alors, votre livre est à ma connaissance le seul en France qui ait été entièrement consacré à ce sujet dont on parle très peu, comme d'ailleurs on parle de façon générale beaucoup moins de la guerre du Pacifique ou de ce qui s'est déroulé en Asie que de ce qui s'est passé en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que c'est de l'amnésie ?
C'est de l'amnésie, je dirais, pour des pays d'Occident, pour lesquels, évidemment, la Seconde Guerre mondiale, c'est d'abord et avant tout ce qui s'est passé du côté de chez eux. C'est d'abord et avant tout, du point de vue de la criminalité associée, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide commis par l'Allemagne. Et tout ça, je dirais, par son ampleur, par son horreur, bien sûr, par sa proximité également, a en quelque sorte éclipsé ce qui se passait simultanément et même sur une période plus longue, vous l'avez rappelé, en Extrême-Orient, et qui certes, sans connaître le même, si je puis dire, diamant noir de l'horreur qui a été la Shoah, a quand même entraîné des crimes immenses et une mortalité qui équivaut à peu près à 40%. On l'oublie souvent, de la totalité des morts de la Seconde Guerre mondiale.
Vous rappelez des chiffres, 27 millions de morts dans cette guerre qui a duré plus longtemps en Asie qu'en Europe, hein, alors qu'il y en a eu 36 millions. Enfin, tout ça, ces chiffres sont évidemment des chiffres un peu approximatifs, car beaucoup de civils sont morts dans cette guerre, un peu partout, majoritairement, justement, victimes de l'armée japonaise. Dans cette guerre en Asie, sur ces 27 millions de morts, les pertes japonaises, civils ou militaires, représente, dites-vous, le 1/8 seulement des pertes des pays occupés par
Japon. C'est à peu près 3 millions de morts, disons en gros 2 millions de militaires, 1 million de civils, y compris les victimes évidemment des deux bombes atomiques. C'est évidemment considérable pour un pays qui à l'époque faisait à peu près 2 fois la population de la France, hein, donc des pertes équivalentes pour le Japon à ce qu'a subi la France par exemple en 14-18, mais évidemment il serait tout à fait déplorable que cela éclipse dans l'historiographie, comme ça tend à le faire du fait du privilège, si je puis dire, des deux bombes atomiques dans le tableau qu'on fait souvent des horreurs de cette guerre, il serait dommage que ça éclipse les quelques 24 millions d'autres victimes, dont à peu près 200 000, 1% seulement, ont été des Occidentaux, des Américains, vous l'avez rappelé, des Australiens, des Anglais, quelques milliers de Français en Indochine, mais dont l'immense majorité ont été des Asiatiques, à commencer par les Chinois, qui ont subi des pertes qu'on peut évaluer approximativement à 15 millions de personnes.
Les Chinois qui, en fait, entre 1937 et 1945, ont donc été occupés pendant 8 ans par les Japonais qui se sont battus pendant toute cette période contre les armées chinoises de Chiang Kai-shek, mais aussi les armées communistes de Mao Zedong.
La zone montagneuse de Lunan abrite des soldats chinois communistes. Des combats très durs ont eu lieu avec ces 20 000 soldats. Nos troupes de choc continuent leurs attaques contre les camps chinois qui se camouflaient dans les montagnes. Depuis le début de ces opérations, nos soldats progressent inexorablement en détruisant tout le dispositif ennemi de la région.
Et c'était une archive et un chant japonais de la guerre, cette guerre menée par le Japon en Chine. Le Japon qui va tout de suite, l'armée japonaise, qui va être responsable de crimes de guerre qui sont épouvantables, ça commence dès 1937, juste après l'arrivée à Shanghai. Un peu plus loin, la ville de Nankin est pillée, mise à sac par l'armée japonaise. Le massacre de Nankin, vous le décrivez longuement, Jean-Louis Marguelin, c'était quelque chose d'abominable.
Oui, tout à fait. Alors, il faut rappeler qu'à l'époque, Nankin, c'était la capitale de la Chine, enfin de la Chine nationaliste, mais les communistes sont pour l'instant réconciliés avec les nationalistes, donc acceptent l'autorité de Chiang Kai-shek comme président de la Chine tout entière. Et les Japonais ont en quelque sorte décidé de faire un exemple. Bon, pour eux, évidemment, c'est quelque chose de stratégique de conquérir la capitale de la Chine, mais ça devait se traduire pour eux par une terrorisation complète de la résistance chinoise, d'où l'extermination des prisonniers de guerre, ce qui a été le principal élément de ce crime de masse, hein, donc quelque chose comme une cinquantaine de milliers de prisonniers de guerre, voire plus, qui ont été massacrés systématiquement à la mitrailleuse après s'être rendus par les forces japonaises, et puis également quelques dizaines de milliers de civils, alors là quelque chose de moins systématique, mais disons tous ceux qui essayent de résister, tous ceux qui essayent de protéger leurs biens, les mères qui essayent d'empêcher leurs filles d'être violées, puisqu'il y a eu aussi des viols de masse, tous ceux-là se font fréquemment massacrer, ce qui est une façon pour le Japon d'essayer de briser la résistance chinoise, puisqu'il se situe encore dans la perspective d'un écrasement de la Chine en quelques mois, et pour eux, donc, la Chine devait ensuite capituler.
Donc c'était systématique, Jean-Louis Margolin, parce qu'on peut se dire au fond, peut-être que les officiers qui commandaient cette armée japonaise à Nankin ont été dépassés par la situation, ont laissé faire leurs soldats. C'était, dites-vous, systématique,
volontaire. En ce qui concerne les prisonniers de guerre, en tout cas, oui, on peut tout à fait le dire. Il y a eu des consignes qu'on a retrouvées, on en a retrouvé toute une série dans les archives. Et bon, le massacre des prisonniers de guerre chinois s'est passé à une échelle tout à fait industrielle et aucun officier ne peut nier évidemment à la fois sa connaissance de ces faits et également sa responsabilité. Ce sont des choses qui ont été connues au Japon même, qui ont été connues au niveau international et ça a entraîné, il faut le dire, en particulier aux États-Unis à l'époque, déjà une très forte réprobation. Donc on ne peut absolument pas dire de ce côté-là qu'il s'agisse d'un massacre ignoré. Il a peut-être ensuite été oublié, mais sur le moment, au Japon comme dans le reste du monde, et bien sûr en Chine, c'est quelque chose qui a été tout à fait connu. Mais en même temps, évidemment, j'ai essayé à la fois de regarder ce qui s'était passé dans ce massacre emblématique et initial en quelque sorte, mais malheureusement, ça se passe dans les premiers mois de la guerre, ça déclenche ensuite toute une série de cycles de massacres.
Oui, vous dites que c'est une répétition générale pour ce qui allait suivre.
Voilà, c'est ça.
Hein, c'est, alors, ce qui a suivi dans toute la conquête de la Chine, et alors avec des choses abominables comme celles qui se passent dans une partie du territoire chinois déjà occupée par le Japon depuis 1931. Alors là, c'est quelque chose d'absolument abominable. C'est c'est les activités de ce qu'on a appelé l'unité 731, c'est-à-dire l'utilisation des populations locales, de prisonniers, dans des expériences médicales absolument affreuses, Jean-Louis Margolin.
Oui, donc il s'agit d'un phénomène qu'on pourrait comparer.
Ça, c'est en Mandchourie, au nord.
Voilà, sur certains plans, aux médecins maudits des camps nazis. Il s'agit essentiellement de préparer la guerre bactériologique, et donc de réaliser sur des cobayes humains plusieurs milliers de prisonniers chinois, quelques prisonniers russes, semble-t-il aussi, donc des expériences toutes plus effrayantes les unes que les autres, donc à la fois pour tester, enfin principalement pour tester des bacilles de la peste, du choléra, etc., et puis également pour tester des matériels, par exemple à destination des pilotes, leur permettre de résister au froid, à haute altitude, à de très basses pressions. Donc on place volontairement les prisonniers dans des conditions abominables. En général, ils n'y résistent pas, d'ailleurs. Et puis même s'ils y résistent, on les remet dans une expérience suivante par la suite. Et donc, il s'agit de quelque chose d'absolument sinistre et qui montre, disons, l'aspect totalement cynique, totalement instrumentalisant de l'attitude japonaise, plus généralement, vis-à-vis des populations civiles, vis-à-vis de leurs ennemis, qu'il ne s'agit pas, c'est peut-être la différence avec les nazis, de massacrer systématiquement, je pense évidemment aux nazis face aux juifs, mais qui sont vraiment quantités totalement négligeables. On peut les consommer en quantité industrielle par centaines de milliers, par millions. Ça n'a aucune importance, ça permet de gagner la guerre.
D'ailleurs, on appelait ces prisonniers victimes d'expériences, les maroutas, les morceaux de bois, c'est vraiment la chosification des gens. Je cite une de ces expériences qui était dans un rapport qui a été soumis au tribunal de Tokyo. Pour mettre au point un traitement des engelures, des prisonniers étaient mis à l'extérieur dans de l'eau glacée et forcés de laisser leurs bras exposés au froid. Les bras étaient ensuite amputés. Le médecin répétait le procédé depuis le bas du bras de la victime jusqu'à son épaule. Une fois les deux bras complètement amputés, les médecins faisaient de même avec les jambes jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une tête et un torse. La victime était alors utilisée pour des expériences portant sur la peste et autres agents pathogènes. C'était vraiment affreux. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que, d'ailleurs, ça s'est relativement peu su, puisqu'en 1945, le général responsable de cette unité, qui s'appelait Ishiri Shiro, je crois, il a continuer ses activités, mais dans la médecine, celui-là.
Qui était un médecin de formation, c'était un médecin militaire, et tous ces gens-là, effectivement, ont continué de très brillantes carrières, jusque dans les années 80, au Japon, voire pour certains à l'étranger. Il faut préciser que, quand vous dites ça, c'est pas su, certes, ça n'a pas été révélé à l'époque, mais du côté japonais, bien sûr, mais du côté également des Américains, des Soviétiques et des Chinois, on avait des connaissances là-dessus, mais il s'est agi d'utiliser ces expériences au profit, évidemment, des pays vainqueurs.
Atrocité d'une guerre qui se limite à la Chine jusqu'en 1941, lorsqu'après Pearl Harbor, les Japonais envahissent tout le sud-est asiatique.
Sunday, December 7th, 1941.
Dimanche 7 décembre 1941.
Sunday dawn with unprepared Hawaii.
À l'aube, Hawaï et l'Amérique incrédule assistent au début du marathon japonais dans le Pacifique.
Our fleet badly wounded. 3,000 Americans not alive to remember Pearl Harbor.
Notre flotte endommagée et 3,000 Américains qui ne sont plus là pour se souvenir de Pearl Harbor.
Hong Kong surrender.
Le 25 décembre, Hong Kong se rend.
The culture of disease, of atrocities to whom she captures.
Et le Japon sème sur son passage la maladie et l'horreur.
February 15th, mighty Singapore surrenders.
Le 15 février, la forteresse de Singapour se rend.
Look carefully at this man. He's the Emperor of Japan.
Observez cet homme, c'est l'empereur du Japon, responsable des atrocités contre notre empire, les troupes chinoises et la population de Hong Kong. Voilà les salauds qui ont torturé nos soldats. Nous voulons la vengeance, une vengeance sanglante.
Et c'était la BBC en 42 après la chute de Singapour. On le verra, on en parlera dans quelques instants. Les prisonniers de guerre britanniques, mais aussi américains, ont beaucoup souffert. Mais là, c'est dans toute l'Asie que brusquement se répand cette espèce de vague de terreur, ces crimes de guerre japonais. C'est plusieurs populations, dites-vous, qui ont été vraiment réduites en esclavage, Jean-Louis Margolin.
Oui, tout à fait. Les Japonais avaient d'énormes besoins de main-d'œuvre, un petit peu d'ailleurs comme l'Allemagne au même moment, qui utilisait quand même au moins une dizaine de millions de travailleurs esclaves sur son propre sol. Et là, il y a eu un phénomène analogue, sauf que ceux qui travaillent pour le Japon, ces coolies généralement non payés, abominablement traités, sous-nourris, non soignés, travaillent plutôt dans les territoires occupés par le Japon. Certes, quelques centaines de milliers, en particulier des Coréens, des Chinois, vont aller travailler dans des conditions aussi très très dures, en particulier dans les mines japonaises, dans les mines, dans les usines, pour remplacer les soldats partis au front. Mais le pire, ça a encore été ceux qui ont été tracés des routes stratégiques, des lignes de chemin de fer stratégiques, des aérodromes, puisque évidemment il s'agit dans la guerre du Pacifique largement d'une guerre par les avions. Et comme les Japonais ont peu de dispositifs techniques, tout ça se fait, le travail se fait pratiquement entièrement à la main, et on consomme des quantités absolument énormes de main-d'œuvre. Les quelques lignes de chemin de fer qui ont été tracées dans ces conditions-là ont chacune coûté des dizaines de milliers de vies humaines. On dit souvent, c'est une façon évidemment de présenter les choses de façon imagée, un mort par traverse de chemin de fer. On en est à peu près là, effectivement.
Autre cas qui a été révélé récemment, disons, dont on s'est souvenu en Occident à cause d'un différend qui oppose actuellement la Corée au Japon, c'est l'utilisation de femmes coréennes, mais aussi de tous les pays occupés, qu'on appelle les femmes de réconfort, qui avaient été violées, mais surtout qui ont été contraintes à la prostitution pour les besoins de l'armée japonaise, Jean-Louis Margolin.
Oui, alors donc c'est effectivement un enjeu aujourd'hui de contentieux extrêmement important entre en particulier le Japon et la Corée du Sud. Puisque une grande partie de ces femmes, probablement la majorité, on n'est pas très sûr des chiffres, venaient de Corée du Sud, et en tout cas de Corée. Plus généralement, il n'y avait pas de Corée. La Corée n'était pas divisée à cette époque-là. La Corée
était occupée par le Japon.
Était colonie japonaise depuis 1910. Donc, on a eu effectivement un phénomène assez unique de prostitution militaire centralisée. Non, pas du tout, bien sûr, que la prostitution militaire n'ait pas existé sous d'autres cieux. Mais en général, il s'agit d'un phénomène, si je puis dire, plutôt spontané, qui peut très bien avoir des aspects sinistres. Mais là, l'aspect sinistre supplémentaire, en quelque sorte, ça a été effectivement cette planification, de cette centralisation, ces exportations de femmes depuis en particulier la Corée, mais aussi partiellement la Chine, voire le Japon, d'un bout à l'autre des territoires occupés par le Japon qui couvrent un espace immense. Et évidemment, dans certains cas, pas dans tous les cas, ça s'accompagne de kidnapping, ça s'accompagne de viol, ça s'accompagne de travail dans des conditions plus que pénibles et parfois non payées, même si on ne peut pas le systématiser, même si sur ce plan-là, le sort des femmes raflées dans les pays occupés, en particulier en Chine ou aux Philippines, par exemple, a probablement été pire encore que celui des prostituées amenées de Corée, qui, pour la plupart, ont quand même survécu et étaient quand même payées.
Les Philippines qui tombent justement entre les mains des Japonais en 1942, d'où partira le général MacArthur, mais qui deviennent japonaises après la chute de Bataan en 1942.
January 2nd, 1942, Manila falls.
Le 2 janvier 1942, Manille tombe.
Manila lasts 26 days.
Manille a tenu 26 jours. L'attaque en nombre des Japonais condamnait Manille et ses rizières. Seul Corregidor maintenant défend la baie de Manille. Et le général Wainwright poursuit la mission de MacArthur. Les États-Unis ont un nouveau cri de ralliement, la péninsule de Bataan. La pieuvre orientale allonge ses ventouses au-dessus de l'Australie. Le Japon et son ordre nouveau en Asie donnent le tournis. Voici la nouvelle tâche qui attend MacArthur.
MacArthur is grand. Douglas, Doug MacArthur, c'était une chanson de l'époque. MacArthur qui avait quitté les Philippines après la chute de Bataan, tandis que les Américains se sont retrouvés, qui défendaient les Philippines, se sont retrouvés prisonniers. Alors on n'en a pas parlé, mais c'est une des choses, c'était un des chefs d'accusation les plus importants du procès de Tokyo, c'est le sort réservé aux prisonniers qu'on a contraints de travailler, ce qui est tout à fait contraire à la Convention de Genève que n'avait pas signé, il est vrai, le Japon, Jean-Louis Margolin.
À vrai dire, il l'avait signé, mais pas ratifié, si on veut être très précis. Hein. Mais d'une part, il en était informé. D'autre part, le Japon avait officiellement déclaré, par une note diplomatique envoyée aux États-Unis par l'intermédiaire de la Suisse, début 1942, qu'il respecterait, qu'il s'engageait à respecter les clauses essentielles de cette Convention de Genève. Donc, il a été parfaitement légitime au procès de Tokyo, évidemment, de poursuivre et de condamner les dirigeants japonais qui n'avaient pas fait tout simplement ce qu'ils avaient promis de faire.
Il y a eu, par exemple, des films qui ont rappelé ça. Il y a eu notamment, on s'en souvient, Le Pont de la Rivière Kwai. Il y en a fait travailler des soldats britannique, de l'ancien empire britannique, sur le pont de la rivière Kwai, c'est-à-dire sur cette ligne de chemin de fer qui a fait, dont la construction a fait des dizaines de milliers de morts, hein, la ligne qui devait rejoindre Bangkok à Rangoon dans des conditions absolument épouvantables.
Oui, tout à fait. Donc, ce film, effectivement, bien connu, qui est probablement le plus connu des films, en tout cas occidentaux, sur cette période, montre les souffrances des prisonniers de guerre, de façon d'ailleurs plus que discutable, puisque le rôle de cet officier qui finalement va se retourner en faveur des Japonais et va faire du zèle, c'est quelque chose de totalement irréaliste compte tenu des conditions de l'époque. Les Japonais ne cherchaient pas des collaborateurs parmi leurs détenus, ils cherchaient des esclaves, purement et simplement. Ce qu'il faut quand même rappeler à propos de cet épisode, encore une fois, c'est qu'à côté, bien sûr, des souffrances terribles qui ont entraîné rien que sur ce chantier une quinzaine de milliers de morts parmi les détenus occidentaux, il y a eu un nombre beaucoup plus important, au moins 4 ou 5 fois plus important, de morts parmi les coulis asiatiques, ces travailleurs esclaves qu'on a déjà évoqués, qui étaient beaucoup plus nombreux à travailler sur le chantier que les prisonniers occidentaux. Il faut rappeler aussi, si on évoque le sort des prisonniers de guerre, qu'il y a une catégorie de prisonniers de guerre sur lesquels on n'a presque pas de témoignages. Pour en revenir au début de notre discussion, ce sont les prisonniers chinois, puisque à Nankin, mais également ensuite, la plupart d'entre eux ont purement et simplement été massacrés lors de leur capture. Mais par ailleurs, il faut dire quand même que les prisonniers occidentaux ont été extraordinairement maltraités et que plus du quart d'entre eux, en à peine plus de 3 ans, sont morts soit de faim, soit de privation, soit de mauvais traitement.
Et puis alors, il y a eu des marches épuisantes aussi, ce qu'on appelait les marches de la mort, notamment celle qui a conduit les prisonniers de guerre américains de Bataan jusqu'à leur camp de détention. On écoute justement l'un d'entre eux, un rescapé de cette marche de la mort de Bataan au moment où, à ce moment-là, MacArthur arrivait en Australie.
Nous avons commencé notre marche à la mort par groupe de 100, en tout 3 à 4 000 sur 4 rangs. Nous avions 3 gardes japonais pour 100 américains. Je n'ai pas vu d'officiers. Ils frappaient les nôtres sur le visage et les battaient brutalement. Douglas MacArthur, commandant suprême dans le Pacifique. Après Bataan, le président Roosevelt envoie MacArthur en Australie. En débarquant sur votre sol, j'ai promis au peuple philippin, je reviendrai.
Et MacArthur reviendra en effet 2 ans après aux Philippines. Il sera l'artisan de la victoire alliée contre le Japon. Victoire immédiatement après laquelle on décide d'organiser le procès des vaincus. On l'a justement dit que ce procès de Tokyo, qui est l'équivalent du procès de Nuremberg pour l'Asie, c'était le procès des vainqueurs, qu'il n'aurait pas eu lieu, bien sûr, si la guerre avait tourné autrement. Alors, on va y retrouver 28 inculpés, pour ce qui concerne les principaux, qui sont accusés. Alors, on les distingue. Catégorie A, crime contre la paix. On les accuse d'avoir comploté contre la paix. Catégorie B, crime de guerre. Catégorie C, crime contre l'humanité. Cela dit, parmi les gens qui comparaissaient, il n'y avait pas l'empereur Hirohito, alors que tous les généraux disaient « mais nous n'avons fait qu'obéir à ses ordres ».
Oui, c'est le principal défaut, incontestablement, de ce procès. Et il faut dire d'ailleurs que c'est un défaut qui a été remarqué immédiatement, y compris par exemple ce président australien du tribunal que vous avez mentionné, qui a mené d'ailleurs de main de maître ces débats, Webb, a rendu un jugement séparé. Le tribunal fonctionnait en fonction du droit anglo-saxon, où il regrettait lui-même tout à fait explicitement, à la grande colère d'ailleurs de MacArthur, gouverneur si je puis dire, au nom des alliés du Japon à ce moment-là, où il regrettait que l'empereur soit absent, tant la teneur des débats, effectivement, prouvait que l'empereur avait une part de responsabilité.
Et c'est finalement le général Tojo, premier ministre du Japon, qui va être la vedette, si on peut dire, de ce procès qui va durer 2 ans et qui s'ouvrait donc en 1946.
Au Japon, voici que sonne pour Tojo et 27 de ses complices l'heure de la justice. Tojo, impassible, a écouté la lecture des 55 crimes dont le moindre vaut la mort. Mais son compagnon Shumai Okawa n'a pas gardé la même tenue. Qu'y a-t-il au fond de ses têtes figées?
Le souvenir du jour où des porte-avions s'envolaient vers Pearl Harbor, les escadrilles chargées de bombes. Voici retrouvé par les Américains. Le film où les Japonais retraçaient pour l'illustration de leur victoire temporaire la traîtrise de Pearl Harbor. Ce film, Tojo peut-être l'avait oublié. C'est aujourd'hui ce film qui l'accuse. Nos crimes nous suivent.
Et Tojo sera condamné à mort et exécuté après ce jugement, prenant tout sur son dos comme pour épargner l'empereur. Pourquoi l'a-t-on épargné, Jean-Louis Margolin, Hirohito ?
Pour des raisons purement politiques. C'est-à-dire que pour les Américains, la peur, c'est de se heurter, au fond, à une résistance armée importante de la part des Japonais.
C'est un dieu, pour les Japonais,
voilà.
L'empereur.
Et c'est l'idée, donc, que garder l'empereur du Japon et s'en servir, au fond, comme une sorte de marionnette, pour cautionner l'occupation du pays, ça va permettre de calmer les choses et ça va permettre de faire une occupation au coût minimal. Ce qui a été parfaitement réussi, puisque très rapidement, les Américains peuvent retirer une partie de leurs troupes d'occupation et les choses se passent très très bien.
Tojo, juste avant sa mort, je l'ai cité au début, vous le citez dans votre livre, Jean-Louis Margolin disait « Je voulais m'excuser de tout mon cœur pour les atrocités qui ont été commises ». Bon, cela dit, où en est le Japon avec ses crimes? Il semble ne pas vouloir les reconnaître, ou il le fait du bout des lèvres, ou il ne reconnaît pas tous.
C'est cela, c'est-à-dire que les milieux politiques dirigeants au Japon, et en particulier le Parti libéral-démocrate qui a dirigé le pays à peu près constamment depuis 1947, est largement composé d'anciens militaires. On est donc d'une certaine façon, le révisionnisme est au pouvoir au Japon. Ce qui ne veut pas dire forcément que tous les Japonais participent à cela. Une grande partie des Japonais, et en particulier, je dois le dire, nos collègues, les historiens, les universitaires, sont plutôt partisans, au contraire, de souligner les responsabilités du Japon. Mais incontestablement, il y a des problèmes de ce côté-là.
L'armée de l'empereur, violence et crimes du Japon en guerre, c'est le titre de votre livre, dont je recommande la lecture, Jean-Louis Margolin, et qui a été publié chez Armand Collin. Vous avez pu entendre plusieurs archives issues des actualités françaises, américaines et japonaises, ainsi que d'une archive pâtée de 1937 disponible en DVD aux éditions Montparnasse. Pour en savoir plus sur cette émission, vous pouvez composer le 3230, 34 centimes la minute, ou vous connecter sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Philippe Duclos et Sandrine Laurent. Documentation et archives sonores Fanny Bohuon et Emmanuel Fournier. Une réalisation de Anne Kobilac.